Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette dernière table ronde de la convention Lovecraft qui sera consacrée sur adapter Lovecraft, cinéma et littérature de l'indicible. Donc cette table ronde sera concentrée sur les adaptations cinématographiques et sur des potentielles adaptations et ce qu'il faut avoir pour faire une bonne adaptation cinématographique. On pourra éventuellement faire des points aussi sur des adaptations littéraires dans l'univers de Lovecraft également. Donc, pour cette table ronde, j'ai le plaisir donc, d'avoir un intervenant, Nebal. Donc, Nebal, qui est un blogueur, essayiste et traducteur, si je ne me trompe pas. Ensuite, Jérôme, donc, qui est scénariste de jeux de rôle et chroniqueur. Ainsi que Arnaud, qui est romancier et scénariste. Et donc, de Alain, qui est éditeur, rédacteur en chef, romancier et essayiste. Alors, la première question que je voudrais vous poser, qui est assez simple, c'est Lovecraft a déjà été adapté au cinéma par plusieurs réalisateurs, notamment Stuart Gordon. Pour vous, quelles ont été les meilleures adaptations en long métrage à ce jour et pourquoi? Nebal, peut-être, pour commencer?
Ouais, alors, il y a deux choses à distinguer. Déjà, il y a les adaptations à proprement parler, ce qui se revendique véritablement de Lovecraft. Puis après, il y a des films qui s'en inspirent très fortement, sans forcément les dire. Les adaptations littérales de Lovecraft, enfin littérales, c'est pas vraiment le mot, vu qu'elles sont souvent très très libres, c'est généralement assez calamiteux quand même. Pour moi, les deux meilleurs, c'est les plus amateurs en fait. C'est les films qui ont été faits par la H.P. Lovecraft Historical Society, qui avait sorti il y a quelques années de ça Call of Cthulhu, donc une adaptation d'Appel de Cthulhu façon film muet. C'était vraiment très sympa. Et ils ont fait aussi depuis The Whisperer in Darkness, cette fois en parlant évidemment avec le thème de la nouvelle, et c'était vraiment bien. Alors là, pour le coup, The Whisperer in Darkness était un petit peu moins fidèle, la fin c'était du gros n'importe quoi, mais qui se mettait bien dans l'esprit des vieux films de la RKO, de l'Universal, ce genre de choses, et donc c'était pas mal du tout. Après, si on va chercher du côté des choses qui s'inspirent de Lovecraft sans le revendiquer directement, il y a une place nécessaire à faire à John Carpenter, pour The Thing notamment et L'Antre de la Folie.
Jérôme ?
Pas mieux. Ah bah alors là, sauf pour j'espère que je ne l'ai pas vu, mais les trois autres, je valide à 300%.
Oui, je pense que tout le monde sera d'accord parce que c'est vrai qu'il n'y a pas. Pour ceux qui s'inspirent, on va dire, le plus directement de Lovecraft, parce qu'après, si on parle de la postérité cinématographique, il y a tellement d'œuvres qui s'en inspirent plus ou moins directement que là, mon voisin pourra compléter, mais il y a quand même un panel très, très, très important. Maintenant, sur ceux qui s'en inspirent le plus directement, c'est sûr que, oui, The Thing et L'Antre de la Folie, ça, c'est effectivement. Mais qui ne sont pas des adaptations littérales, justement. Hein. C'est-à-dire qu'on est déjà loin de Lovecraft. Mais je pense que c'est le problème sur lequel on va assez vite tomber, qui est quand même le cœur du sujet, c'est la question de la représentation de l'univers de Lovecraft au cinéma. Alors ça, je pense qu'on va y venir.
Alors,
oui, moi aussi, je suis d'accord, évidemment. Moi, j'aurais insisté beaucoup sur L'Antre de la Folie, mais c'est vrai que The Thing, c'est bien aussi. Je préfère encore, parce qu'il y a encore eu un remake de The Thing, et puis il y a eu la préquelle de The Thing, où on raconte ce qui s'est passé avant. Vous savez, si vous avez vu le film, quand le chien arrive, il est contaminé. Mais comment ce chien a-t-il été contaminé?
Et donc, 3 heures de film.
Ouais, ils ont fait le film, mais c'est quand même un remake, parce que c'est toujours le même système, hein, la contamination arrive, etc. Voilà, moi je suis d'accord au fait aussi, il faut bien distinguer l'adaptation. Je serais quand même un peu plus indulgent avec ceux qui ont adapté Lovecraft, parce que ces pauvres, ils se sont donné du mal, ils ont essayé de faire quelque chose, et c'est vrai que c'est pas facile à adapter Lovecraft. D'abord, il faut avoir des moyens pour que les monstres soient à peu près corrects, et ces gens-là l'ont fait sans moyens. Et puis, voilà. Maintenant, moi je citerai 3 autres films qui sont pas annoncés du tout comme des adaptations de Lovecraft, mais qui pour moi sont vraiment des adaptations de Lovecraft. C'est des 3 films de la Hammer. Le premier s'appelle Le Monstre. Il a été tourné en 1954 ou 7, je regarde dans mon bouquin. Donc c'est l'histoire de cosmonautes. Donc c'était début des années 50. Hein. Donc les cosmonautes sont envoyés dans l'espace, ils traversent une entité dans l'espace. Et ils sont contaminés, ils meurent tous, il y en a un cas qui survit et il revient et il se transforme petit à petit en monstre Dernière image du film, c'est Cthulhu, le monstre, sans aucun doute. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il n'est pas facile à voir. Ça c'est le premier, il y a un cycle, trois films, qui s'appelle le cycle du professeur Quatermass. Voilà. Donc le professeur Quatermass, c'est un peu ce que je disais dans la table ronde d'hier, il symbolise bien dans l'œuvre de Lovecraft le côté apitoyable de la science. La science, c'est comme ça, c'est pas autrement, et ça peut être mortel. Donc, c'est aussi cette obsession de Lovecraft. Donc, dans le deuxième film, eh bien, ça s'appelle La Marque. C'est toujours de... Ça y est, j'ai perdu son nom, le réalisateur anglais, j'ai retrouvé de mémoire. Et donc, dans ce film, c'est des entités massives qui envahissent la Terre, et tous les gens qui sont sous la domination de cette entité massive, qui on voit dans un hangar, qui est vraiment une créature de Lovecraft. Les deux films sont noir et blanc. Ils sont marqués, donc ils sont une marque, donc ça s'appelle La Marque. Et, voilà. Et le troisième, c'est vraiment le plus génial, qui s'appelle Les Monstres venus de l'espace. Ça ne se passe pas du tout dans l'espace. Ça se passe dans le couloir du métro de Londres. Parce que quand ils ont fait des travaux dans le couloir du métro de Londres, ils ont découvert un vaisseau spatial. Enfin, on envisage que c'est un vaisseau spatial dans lequel il y a des entités, des créatures qui sont tout à fait lovecraftiennes, qui ne sont pas mortes en fait, et puis qui reviennent, qui réapparaissent puisqu'ils ont été déterrés, et qui envahissent le monde. Voilà. Ça, c'est un film qui n'est pas du même réalisateur que les deux autres et qui est en couleur. Donc, je cite toujours ces trois exemples pour montrer que on peut trouver Lovecraft dans des films qui n'annoncent pas du tout Lovecraft, et qui sont, dans une certaine mesure, extrêmement plus fidèles que certaines qui ont voulu être des adaptations plus réelles.
Oui, c'est-à-dire qu'il même, il y a une telle postérité qu'il y a énormément de films fantastiques qui sont toujours, non seulement sans réclamer, mais sans nécessairement ni le citer, ni même parfois donner à penser qu'ils le connaissent, s'en inspirent. Par exemple, je pense à The Descent, si vous l'avez vu, c'est complètement Lovecraftien, de bout en bout. Voilà, c'est la race dégénérée qui est sous la montagne, etc. Bon. Donc on est dans un courant qui est complètement Lovecraftien, et une espèce d'efflorescence comme ça dans toutes les directions, au cinéma particulièrement, qui a cette paternité lointaine sans nécessairement ni s'en réclamer ni même parfois la connaître véritablement, quoi. Donc c'est assez étonnant. Par contre, ils connaissent Carpenter, ils connaissent les cinéastes des années 70, qui eux-mêmes, etc.
Donc c'est enquête déjà plus ou moins sur des questions que j'avais prévu, qui est le fait que de nombreux réalisateurs connus ont déjà déclaré leur amour à l'univers de Lovecraft dans leurs films, et ce que ce soit sous forme de clin d'œil clair ou même de référence. Je pense notamment à Guillermo del Toro, en plus de John Carpenter qui a été cité. Pour vous, quel réalisateur serait capable de passer le cap et donc de faire une adaptation pure et dure de Lovecraft?
Guillermo del Toro.
Voilà. Mais c'est pas sûr, moi, je suis pas sûr.
Non, mais si vous avez vu Le Labyrinthe de Pan, c'est quand même...
C'est-à-dire, enfin, on avait cette discussion hier, hein, donc reprenons là. Ouais. C'est qu'il y a deux options. Soit il y a l'option kitsch hollywoodien, et donc là, ce sera un massacre. Et alors, parce qu'il était question de l'adaptation des Montagnes Hallucinées, n'est-ce pas, c'est ça. Et c'est sûr que si on va vers ça, ça peut être qu'un massacre, même si c'est Guillermo del Toro. Ou alors il y a une option qui est plus radicale, mais qui risque d'être plus censitaire aussi, c'est-à-dire donc moins grand public ou moins vendeuse, mais qui aura à la faveur des connaisseurs. Voilà. Donc il y a un pari sur une adaptation de Lovecraft de manière générale, si elle est déclarée, parce que l'attente elle est incroyable de la part du public qui connaît. Et ceux qui ne connaissent pas, soit on leur sert le truc grand public et à ce moment-là, bon, on fait une espèce de Pacific Rim Lovecraftien, quoi. Soit on est dans une démarche qui à mon avis la bonne, mais qui explique aussi pourquoi ça se fait très peu, c'est-à-dire une démarche plus radicale avec un parti pris esthétique qui peut-être pourra se planter, mais qui au moins aura une cohérence artistique. Et là, c'est plus... Donc voilà, ça peut être un Guillermo del Toro bien luné, quoi, au bon moment.
Non, mais moi, je fais quand même
Ça dépend énormément aussi de l'aspect de Lovecraft qu'on veut adapter. Il y a certains films... certaines nouvelles qui pourraient donner quelque chose de très hollywoodien, là où d'autres vont jouer sur une dimension beaucoup plus intimiste, alors que les ressorts de l'horreur et la philosophie sous-jacente peuvent être les mêmes, quoi, finalement. une adaptation de l'Abomination de Dunwich. J'imagine que c'est très envisageable et ça s'inscrirait dans une lignée qui a déjà beaucoup joué sur les rednecks, les trucs comme ça, le thème de la dégénérescence, ce genre de choses. L'appel de Cthulhu, par contre, à mon sens, c'est, même si ça a été fait par les gens dont je parlais tout à l'heure, c'est beaucoup plus dur à envisager comme adaptation parce que c'est pas censé du tout être spectaculaire. La plupart des trucs, c'est de la corrélation de documents. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent chez Lovecraft. Donc c'est voilà, un type qui bosse dans une bibliothèque, c'est pas Pacific Rim pour le coup.
Oui, ou Charles Dexter Ward.
Oui, voilà.
Jérôme a pas une idée aussi sur ce point ?
Non, c'est vrai que ça va dépendre du type d'horreur qu'on va vouloir mettre en scène, quoi. C'est sûr que c'est une horreur gore, etc. C'est pas du tout pareil qu'une horreur psychologique, quoi. Donc forcément, j'ai du mal à voir Guillermo del Toro sur le côté très psychologique. Je vais attendre plus sur du grand spectacle, etc. Et voilà, mais si une approche beaucoup plus psychologique peut être vraiment super intéressante, quoi.
Moi, je suis pas d'accord du tout avec votre crainte. Moi, je connais bien Guillermo del Toro, pas personnellement, mais comme cinéaste. C'est un type qui sait ce qu'il fait. Et donc, s'il veut pas faire un film hollywoodien, il n'a pas besoin de fric, il n'ira pas chercher Hollywood pour faire son film sur les montagnes hallucinées. Il fera un film comme il en a fait d'autres, que j'ai pas en tête, qui ne sont pas des films d'argent, qui sont des films, comme on disait, oui, à l'époque d'art.
Non, mais ça, ça veut pas dire qu'il
est tout à fait capable de le faire.
Non, mais bien sûr, c'est pas une question de capacité, c'est une question de parti pris. Voilà, c'est tout.
Ah ben moi, je.
Les Chines du diable, par exemple. Comment ? Comme les Chines du diable, en fait.
Comme les Chines, ouais, voilà, bien, oui. Comme les Chines du diable, exactement.
C'est ça.
Donc, moi, je connais sa cinématographie, Guillermo del Toro, c'est un cinéaste vraiment extraordinaire. Il ne faut pas voir dans les œuvres de Guillermo del Toro que le film Pacific Rim, hein, il en a fait beaucoup. Il en a fait un aussi sur la guerre d'Espagne, il y a un obus qui tombe au début de la.
C'est les Chines du diable.
Excusez-moi, je mélange un peu, j'en ai tellement dans la tête. Donc, ça, c'est un film extraordinaire. C'est un film fantastique. Extraordinaire, mais qui pose tous les problèmes de la guerre d'Espagne de manière magistrale. Et c'est pas du tout un grand film d'exploitation. Ouais, donc bon. Moi, je pars du principe, je lui fais confiance.
Non, bien sûr.
Voilà, a priori, maintenant Guillermo del Toro, il est quand même bankable. Il a besoin d'un gros budget. Clairement, il a annoncé, il a besoin d'un gros budget. Il vise un public qui soit au moins du 16 ans, voire 18 ans. On sait qu'il ne va pas faire de l'intimiste, quoi. Là, il va aller dans le visuel, dans l'explosion
et
partout.
Et comme disait Neval, les montagnes hallucinées, ouais. C'est quand même particulièrement difficile à adapter. Bon,
ah oui, c'est clair.
Mais voilà, c'est quand même une nouvelle qui est très très difficile à adapter.
Dans les montagnes hallucinées, il y a le cadre antarctique, donc on a pu retrouver dans le grand dossier ou des choses comme ça, qui peut donner quelque chose de très visuel. Ouais. On peut s'attendre à quelque chose de très visuel, effectivement, sur les montagnes, la cité des chasseurs anciennes, etc. Mais si on prend le texte de Lovecraft en lui-même, la moitié au moins, c'est des types qui décrivent, qui interprètent des hiéroglyphes sur les murs de la cité des grands anciens. C'est pas la même chose, quoi.
Mais est-ce qu'on va demander à Guillermo del Toro de faire un copier-coller de la nouvelle, de la petit roman Non,
sûrement pas, mais en restant dans le.
Non, mais ce qu'on dit, c'est que le pari est très risqué, et comme l'attente est très grande, c'est pas son talent esthétique, mais lui-même peut être prisonnier d'une logique qui lui échappe, ou alors ne pas faire le film, ce qui paraît être le cas, puisque pour le moment, le truc est ajourné quand même. Donc c'est aussi un signe. Mais bon, tout ça pour dire que. Le problème, c'est celui de la représentation. D'ailleurs, nous avons notre ami Christophe Thiel ici, qui est un spécialiste, notamment du Roi en jaune, puisque c'est lui qui l'a publié, hein, aux éditions Malpertuis. Et alors, pourquoi je parle du Roi en jaune ? Parce que le problème se pose déjà de l'adaptation, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs c'est assez marrant, on est à peu près au moment de la naissance du cinéma aussi. Et dans le Roi en jaune, moi j'ai été surpris parce que je l'ai découvert un peu grâce à toi, en le lisant, je m'attendais à une espèce de défilé un peu près Lovecraftien, etc. Bon, en fait non, il y a une série de nouvelles, les interventions du Roi en jaune ou de Carcosa sont quand même très très liminaires, c'est-à-dire elles sont là comme des petites touches. Alors c'est vrai qu'il y a une ambiance un petit peu particulière, etc. Mais on est déjà dans l'allusion, on est déjà dans l'indicible, c'est-à-dire que la fenêtre ouverte tout à coup sur Carcosa ou sur Major, c'est une petite fenêtre étroite, c'est pas l'horreur massive avec le gore sanguinolent, c'est pas du tout ça. Et donc le déclic chez Lovecraft, puisque le Roi en jaune fait partie de ses inspirations quand même premières, c'est pas une horreur qui est représentée, visuelle, et voilà, c'est une horreur qui est qui est une espèce de fenêtre ouverte sur un univers parallèle ou je sais pas quoi, transdimensionnel, ou avec simplement cette impression, cette découverte subite trop forte pour la psychologie, pour la psyché humaine, tout à coup, qu'en fait, il y a autre chose et que cette autre chose nous écrase et qu'on n'est que des pantins, voilà. Et donc c'est cette forme d'horreur-là, puisqu'elle est presque abstraite, elle est très difficile à représenter, et moi, puis après j'arrête sur le sujet, mais ce que je reproche, enfin c'est pas que je reproche, mais je veux dire, moi j'aime bien Stuart Gordon, le film, etc. Je suis un grand film, un fan de films fantastiques comme tout le monde ici, mais je veux dire, je décroche un peu à partir du moment où tout à coup, par exemple dans Dagon, où tout à coup on monte les écorchés, etc. Et voilà, c'est-à-dire que là, le gore sanguignolant prend le pas sur l'horreur lovecraftienne. Et il est le premier à dire, d'ailleurs, dans ses textes à lui, dans l'idée d'une adaptation du Necronomicon ou de ce genre de choses, dire c'est pas possible. Si on montre, si on tente de montrer, on tue.
Alors, je mettrais un petit bémol quand même. Je pense que c'est un petit peu plus ambigu que ça. Parce qu'il y a certains textes de Lovecraft qui correspondent pleinement à cette manière de voir les choses. Mais c'est vrai que Lovecraft, bon, on associe le terme indicible, ça fait partie avec cyclopéen, etc., du cliché de l'adjectivité chez Lovecraft. Mais en même temps, Lovecraft ne montre, et c'est ça qui rend les choses particulièrement difficiles. Si on prend Cthulhu dans l'appel de Cthulhu, même si on le voit d'abord qu'au travers de statuettes, et puis après on l'entrevoit dans le récit du marin, Cthulhu est montré. Et il y en a qui sont encore plus que ça. Ben, on parlait des montagnes hallucinées, la description des choses très anciennes, c'est 3 pages quand même. Et c'est une description scientifique et hyper pointue. Et c'est ça qui rend les choses difficiles en fait, c'est qu'il laisse pas tant que ça de marge à l'interprétation malgré tout. Il montre comment. Il montre la chose, mais il accumule tellement les détails que c'est là que ça en devient indicible en fait. C'est parce qu'il en rajoute tellement que ça devient grotesque et c'est quelque chose qu'on ne peut plus ressentir en dehors du seul procédé littéraire, je pense.
Alors donc moi je vais te dire 2 trucs, d'accord, ouais. Première chose, Stuart Gordon a toujours rêvé de faire une adaptation de la Maison de la Sorte.
Il l'a fait ça.
Alors justement il l'a fait. En téléfilm, dans la série Les Maîtres de l'horreur. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je trouve que c'est assez réussi.
Oui,
donc, il n'est pas rentré dans le gore, encore il y en a un peu, mais il y en a un peu dans l'histoire. Parce qu'on tue des bébés, c'est pas marrant à regarder, mais il a bien réussi, il a bien fait le lien avec les problèmes de géométrie spatiale, puisque son héros, c'était plus un étudiant, je crois que c'est un étudiant en maths dans la nouvelle, c'est plus un étudiant en maths, c'est un étudiant en théorie des cordes, où il parle des autres univers, etc. Donc, Stuart Gordon est capable de faire quelque chose de bien. Je pense qu'il faut quand même le dire, il ne l'a pas fait, c'est vrai, mais il peut être capable de le faire. Alors donc, je voudrais revenir sur sur le film L'Appel de Cthulhu en muet, là. C'est un film extraordinaire, ça c'est vrai. Et donc, c'est un film qui est visiblement dans sa structure pompé sur un autre film qui est un chef-d'œuvre du cinéma, qui est le Nosferatu de Murnau. C'est exactement le même système
du
cinéma expressionniste. Et pourquoi c'est le même système? On peut contester ce que je dis, parce que, vous l'avez dit, la nouvelle de Lovecraft, elle est basée sur le même système que le Dracula de Bram Stoker, avec différents modes de pour raconter l'histoire. Mais on a parlé d'expressionnisme allemand. Par exemple, vous prenez un film, je ne sais pas si vous connaissez, Le cabinet du docteur Caligari, qui date de 1920, c'est un film muet. On ne peut pas faire plus Lovecraftien avant Lovecraft, parce qu'il date de 1920, que ce film, le cabinet du docteur Caligari, avec des vues en perspective, des angles bizarres, comme dit Lovecraft dans ses nouvelles, etc. Et si vous avez l'occasion de le voir, ce film, regardez-le. En plus, c'est un peu un film d'horreur, puisqu'il s'agit il y a un type qui enlève une femme, etc. Donc, le cinéma expressionnisme, d'ailleurs, Letra le dit dans le colloque de Cerisy sur Lovecraft, Letra, c'est un spécialiste du cinéma, il dit le cinéma expressionnisme allemand, c'est un cinéma qui faisait déjà du Lovecraft avant qu'ils connaissent même Lovecraft. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Lovecraft, ce qu'il fait, c'est quelque chose un peu d'univers. Il y a quelque chose d'universel dans ce qu'il fait, quoi, et puisque on le retrouve même chez des gens qui ne connaissaient pas du tout.
Non, c'est vrai. Ce que tu as dit au sujet du fait que l'accumulation d'adjectifs, parce que c'est vrai que les choses sont représentées, mais elles sont quand même rarement dans le truc dans l'économie globale, quoi, dans la somme globale. Elles le sont, c'est vrai. Ben, L'Appel de Cthulhu particulièrement, bon. Mais c'est pas la règle quand même. Et quand elles le sont, par contre, c'est vrai qu'il y a cet effet d'accumulation qui fait que le cinéma peut difficilement rendre compte, parce que du moment où il montre, il va figer. Alors donc, comment le montrer comme tu dis, la plupart du temps, sur les montagnes hallucinées, par exemple, en effet, les deux tiers, ils sont à commenter des hiéroglyphes, tout est hors champ. L'espace de l'imagination, il est couvert par le lecteur. L'image, elle va figer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? L'ombre, on va montrer le tentacule, ça va être ridicule. On va montrer, comme dans le film de Yuzna, etc., Christophe Gantz, tout à coup, le Cthulhu qui a surgi de la mer, et on va prendre le parti de le mettre frontal et se dire, bah le voilà. On va faire des trucs d'échelle, façon Godzilla, avec un Cthulhu gigantesque et un petit personnage. Comment on va le montrer? Et c'est là où, alors justement, un Guillermo del Toro, je ne sais pas qui a l'habitude à la fois du gigantisme et de la fable un peu plus poétique, pourrait effectivement, à condition d'afficher un parti pris qui soit pas le truc attendu. Et c'est là où effectivement la référence au cinéma expressionniste peut être intéressante, parce que ça soit de Caligari jusqu'au Troisième Homme, etc., il y a quand même là une approche qui peut être peut-être, pourquoi pas un Lovecraft en noir et blanc, par exemple, hein. Pourquoi pas un truc esthétisant noir et blanc avec un un choix, quoi. Parce que si on est dans le code cinématographique traditionnel en couleur 3D machin, ou même pas 3D, ça risque d'être c'est très très dangereux, quoi.
Ça dépend, on n'est pas cinéaste, donc on peut pas parler à la place des cinéastes.
Non, bien sûr.
Je vais illustrer ce que j'ai à dire. Prenons un peu le film L'Antre de la Folie. Oui. Comment il a traité le sujet, Carpenter? Pas du tout. En prenant une nouvelle de Lovecraft et puis en suivant de A à Z. Il a imaginé lui-même ce que c'était que Lovecraft. Il a pris un écrivain, un écrivain maudit qui sème le bordel dans toute la société, et puis il a fait plein de petites touches constamment pour rappeler un certain nombre de choses de l'œuvre de Lovecraft, le tableau dans l'hôtel, la femme de l'hôtel qui a les pieds enchaînés, la voiture qui tente de sortir du village, qui revient tout le temps, etc. Donc il a repris tout un tas de trucs de l'œuvre de Lovecraft.
Sur la représentation, je reviens un tout petit peu en arrière si possible. En fait, le truc, c'est que le problème s'est déjà posé dans le cadre d'autres adaptations, les illustrations et les bandes dessinées. Et c'est un problème qu'il y avait, par exemple, je parlais des choses très anciennes tout à l'heure, des montagnes hallucinées, ça va aussi pour la grande race dans l'abîme du temps. On voit les couvertures d'Astounding, quelle revue c'était, qui représente donc la bestiole conique avec ses yeux qui vadrouillent, ou tentacules, des trucs comme ça. Honnêtement, ça passe pas. Ça fait pas un effet d'horreur, ça a même quelque chose de grotesque, mais pour le coup, dans le mauvais sens du terme. Après, par contre, dans les adaptations en bande dessinée, par exemple, ça a pu donner lieu à des choses très différentes. Et là, pour rejoindre ce qui était dit sur l'expressionnisme ou des choses comme ça, il y a une adaptation qui est phénoménale en bande dessinée, c'est celle de Brescia, qui joue sur des collages, des photos, du dessin, tout ça mélangé. D'une certaine manière, il montre, et en même temps, en montrant, il cache. Enfin, et là, ça rejoint les procédés, je pense, qu'à Lovecraft dans son écriture.
Et donc, pour adapter Lovecraft en long métrage, est-ce mieux de fusionner plusieurs nouvelles en un film, ou alors d'adapter seulement une nouvelle et que le scénariste et réalisateur y apporte en plus sa matière personnelle à lui, son expérience après avoir lu cette nouvelle?
Ça dépend des
règles. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a certainement pas de règles. Je pense que le truc, il est vraiment dans le parti pris esthétique. Après, fusionner des... tu disais à l'instant, Carpenter, effectivement, c'est pas une adaptation d'une nouvelle littérale. Bon, en même temps, par rapport à ce qu'on disait, dans ce film-là précisément, on n'a pas l'irruption des entités cosmiques, etc.
La fin, c'est fini, tout le monde.
Vous l'avez dans The Mist aussi, par exemple, dans un autre genre, où tout à coup, c'est suggéré dans le brouillard et on voit quelque chose qui. Voilà, bon. C'est vrai. Mais sinon, je sais pas, il n'y a pas de.
Il y a quand même pas mal de nouvelles où il y a un protagoniste, quoi.
Oui, c'est pas bon pour le cinéma.
C'est un problème pour le cinéma, quoi.
Parce qu'il faut durer 1h30, 2h quand même.
C'est ça, donc forcément ça va être un peu compliqué, quoi.
C'est pour ça que les montagnes hallucinées.
C'est une super idée, quoi.
C'est pas mal.
Il y a un groupe d'explorateurs, il y a tout qui va bien, quoi.
Non, mais. Comment je pourrais dire. On peut pas dire. C'est le choix. Comment je pourrais dire. On n'est pas cinéaste. Moi j'ai fait quelques films, mais. On n'est pas cinéaste, donc on ne peut pas parler à la place du cinéaste. C'est un artiste qui a sa manière de créer la chose. C'est pas moi qui vais dire comment on fait un film pour adapter Lovecraft. Si un cinéaste a le projet d'adapter un film sur Lovecraft, il va nous expliquer comment il va le faire. Nous, on est critique seulement, on peut le dire, une fois que le film est fait, c'est pas si bon que ça, ou c'est bon, comme on l'a fait. Par exemple, c'est vrai que le Dagon, il y a des moments assez intéressants. Hein.
Oui, il y a des trucs très bien.
Oui, voilà, voilà, oui. Des trucs très bien, mais bon, il n'arrive pas à boucler son truc, quoi, ça c'est sûr. Maintenant, il y en a d'autres, peut-être, qui ont peut-être un peu mieux réussi, même dans ce domaine-là.
La folie et la santé mentale sont omniprésents dans les écrits de Lovecraft. Comment la retranscrire convenablement à l'écran sans tomber dans le ridicule?
C'est là que l'expressionnisme intervient.
Voilà.
Notamment. C'est, à la base, c'est vraiment ça. Ça fait partie des ressorts de l'horreur psychologique, très influencé par la psychanalyse ou des choses comme ça. Là, je pense qu'effectivement, l'expressionnisme semble être.
Il y a un modèle, je trouve, là, moi, au cinéma, mais qui n'est pas directement Lovecraftien, c'est Polanski. Parce que Répulsion, Le Locataire. Rosemary's Baby aussi, des films comme ça, il n'y a pas d'intervention surnaturelle particulière ou c'est par allusion, peut-être dans Rosemary's Baby parce que là il y a le truc un peu plus biblique, on va dire, mais sinon on est dans l'horreur psychologique. Alors pour le coup, oui, ensuite c'est les procédés cinématographiques qu'on connaît. Alors l'expressionnisme, effectivement, tu disais les perspectives de décor, etc., par exemple les projections mentales. Donc tout ce qu'on peut faire au cinéma avec les projections mentales, que ce soit en termes de décor, de, je sais pas, de floutage, de cadrage décadré, de voilà, c'est du langage cinématographique après, hein, pour rendre la folie. Mais c'est certain qu'un cinéaste qui s'emparerait sous cet angle-là, bah c'est toujours le même défi, c'est-à-dire en effet comment traduire ça, comment par exemple montrer la folie en marche psychologique. On a quand même des exemples dans le cinéma, je pense à Polanski, mais il y en a d'autres particulièrement où ça fonctionne très bien. Donc il faudrait peut-être commencer par revoir tous les Polanski et de la période comme ça obsessionnelle, psychotique.
Jérôme a un point de vue dessus?
Non, je partage complètement son avis. Là, sur ça, on est à 300% d'accord.
D'accord.
Non, moi, je vais citer deux films quand même. On a un peu été sur l'histoire de Gordon, mais il a fait un film, je ne sais plus si c'est très exact du film, Au-delà.
Au-delà, oui.
Comme bien. Ça s'est tiré de la nouvelle Au-delà de. Moi, je prends toujours l'italienne.
From Beyond.
Cette nouvelle, cette nouvelle parle de la folie. Donc, je trouve que c'est pas si mal. Je crois que vous avez vu le film.
C'est pas très fidèle quand même.
Ah, c'est pas fidèle, non.
Enfin, à moins de considérer que les tripes sadomaso fétichistes, bondage, soit très Lovecraftien.
Non, c'est pas l'autre. C'est pas fidèle. Est-ce qu'il faut être fidèle pour adapter l'Lovecraft? Je sais pas. C'est justement.
Non, mais là, pour le coup, ça fait tâche quand même.
Bon, il y a un autre film aussi qui est de John Carpenter, que je trouve Lovecraftien, personne ne le cite jamais, je me trompe peut-être, c'est Prince des Ténèbres.
Ah si, oui, bah oui.
Donc, il y a une entité dans la cave de l'église, un peu visqueuse et verte, qui répand la folie tout autour d'elle. Je trouve que c'est une inspiration de Lovecraft qui n'est pas mauvaise.
Oui, moi j'ai bien aimé. Il y a des procédés justement comme ça. On voit particulièrement les images vidéo là, qui sont assez réussies.
Donc justement, tout à l'heure, on parlait du fait de montrer ou ne pas montrer. Est-ce que c'est quand même mieux de laisser la démarche du spectateur imaginer le reste? Il y a plusieurs réalisateurs justement qui ont ce cheminement dans des films, même plusieurs écrivains autres que leur part, qui laissent une description assez sommaire et qui laisse faire le cheminement du spectateur. Est-ce que c'est un parti pris important à avoir dans un film pour adapter leur film?
Il peut l'être. Il y a un autre film qu'on pourrait citer, je pense, qui est une tradition américaine parallèle à l'expressionnisme, enfin un peu après, c'est Turner, avec notamment La Féline. Ouais. Et là, on est vraiment dans le fantastique en fait. Psychologique, la suggestion, si jamais justement par rapport à la folie, on en parlait tout à l'heure. Et dans un sens, le fond pourrait être Lovecraftien, hein, l'idée de cette race étrange qui existe peut-être ou n'existe peut-être pas depuis des milliers d'années au milieu de l'humanité. Ça colle pas mal, quoi. Mais ça, c'est une des voies possibles. Je prétendrai pas que ce soit forcément la plus pertinente pour adapter du Lovecraft à proprement parler. Et comme de même que cette raison, du coup, je rejetterai pas non plus le gore outrancier, l'ultra-réalisme frontal, ce genre de choses. Ce sont des outils. La question après, c'est de voir comment on les utilise. Mais ils ne sont pas forcément exclusifs comme eux. Mais...
Autre chose à rajouter sur cette question?
Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le cinéaste qui décidera. Mais justement, le gore, c'est un genre qui a décidé de montrer. Voilà. Donc, ça n'a pas toujours existé. Hein. Après, le porno aussi, c'est un genre qui a. C'est le cinéma aussi.
Après, je sais pas s'il faut mélanger les deux optiques en même temps. Quoi. Je pense qu'il faut prendre un parti pris d'entrée de jeu, parce qu'on risque de retomber dans les vieux trucs où effectivement il y a la première partie du film qui est dans une optique et à un moment il y a un break, on ne comprend pas pourquoi et ça part genre dans le gore, outrancier, machin et du, alors qu'en fait toute la première partie du film était dans une autre optique. Et je pense qu'il faut faire un parti pris d'entrée de jeu sur voilà, c'est soit on montre, soit on montre pas, mais on fait pas un petit peu et puis.
Oui, parce que souvent les intrigues sont construites de la même manière, c'est-à-dire la césure est psychologique. Tout ce qui est du ressort du travail de l'enquête, du mystère, du pourquoi, etc., ça va. Et puis du moment où il faut montrer, on bascule. Parce que là, tout à coup, bon bah on montre pas, on est au cinéma, on montre, et voilà.
Les écrits de Lovecraft se passent donc majoritairement au début du XXe siècle. Est-ce qu'on peut adapter ces récits à l'époque contemporaine ? Et comment ?
Ah, comment ça on va peut-être pas répondre à la question tout de suite, certainement, oui, au contraire. Moi, je pense qu'il y a même des défis. Bah, écoutez, en ce moment, je sais pas, il y a les biotechnologies, il y a le clonage, il y a tous les trucs autour de l'ADN, il y a. On vient de découvrir des exoplanètes, avec des possiblement comparables à la Terre. Enfin, on a 10 000 perspectives permettre d'adapter Lovecraft au bout du jour, hein, ça, certainement. D'ailleurs, le cinéma fantastique continue de s'en nourrir lointainement.
Bah, nous, on a. On va reboucler peut-être sur la table ronde qu'on a eu juste précédemment, en fait, hein, qui était sur le jeu de rôle. Il y a des adaptations de l'univers de Lovecraft en contemporain, quoi, avec Delta Green, les conspirations, etc., qui sont juste super intéressantes, quoi. Et avec, en plus, là, sur le dernier supplément qui est en date, qui est vraiment très actuel, quoi, qui est daté 2012, avec des choses, effectivement, sur la biotechnologie, sur le clonage, sur la manipulation génétique. Et ce genre de choses, donc ça peut, c'est complètement au bout du jour.
Stuart Gordon, c'est déjà ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, la maison de la sorcière du maître de l'horreur, là, il a complètement adapté à l'époque naturelle, à l'époque actuelle, ça se passe à notre époque. Il y a un film, je viens de regarder un film, je ne vais pas m'empêcher d'en parler, ça s'appelle La cabane au fond des bois, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est un Evil Dead un peu en double, quoi, mais c'est assez malin parce que trois quarts du film, les gens ils sont agressés par des zombies, des machins, etc. Ils sont dans la cabane. Et à trois quarts du film, on voit des gens dans un milieu ultra moderne.
Ah oui, j'ai vu ça.
Qui les espionnent, etc.
Une espèce de champ de force autour de.
Il y a un champ de force aussi pour ne pas sortir, ouais.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc, on se demande ce que c'est, et puis moi, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Et à la fin, ces gens-là, c'est des gens qui représentent la société humaine, ils font des sacrifices pour les grands anciens.
Oui, c'est ça.
C'est un peu décevant.
Ils sont dans une espèce de jeu de rôle dans une cabane au fond des bois.
Ouais. Hein.
Ils s'aperçoivent. Bon, enfin, voilà, c'est spoiler, hein, parce que maintenant, vous savez tout, c'est que la
enfin, on pourrait dire, on se demande où Lovecraft se loge.
Oui, où il se loge pas aussi, parce que tous ces films-là, on retombe encore dans le.
Les écrits de Lovecraft aussi sont souvent écrits donc à la première personne. Est-ce que ce serait pas intéressant de voir un film justement qui nous est narré ?
Bah, encore une fois, sur le principe, tout est possible. Hein, c'est toujours cette question du parti pris esthétique. Tout est possible, et là tu as raison sur le fait que c'est la vision du cinéaste qui va décider et qui décidera. Le tout, ce qu'on se borne à dire, nous, c'est les défis que représente l'adaptation. Voilà. Et à partir du moment où il fait des choix, tous les choix sont légitimes, à partir du moment où ils sont argumentés, et si ça repose sur un parti prescétique. Ce qui risque de rendre les choses compliquées, c'est s'il n'y en a pas, ou si c'est une espèce de bouillie lovecraftienne, histoire de annoncer qu'il y a Cthulhu. J'ai vu qu'il y a l'année dernière, il y a 3 ou 4 téléfilms qui sont sortis aussi, je ne les ai pas vus, je ne sais pas ce qu'ils valent, sur le sujet, avec des adaptations, je ne sais pas, tu les as vus peut-être
Non.
Des trucs qui ne sont pas sortis en France, oui, c'est ça, au territoire des ombres et tout.
Ah, c'est des ombres, je les ai vus, non, c'est pas bon.
Ils ont osé montrer Cthulhu.
Oui, alors voilà, c'est pour ça, en plus il était en jaquette partout et tout.
Ils ont montré Cthulhu qui est bien pensé et tout, c'est pas beau.
Bah, il bouge bien Cthulhu, il a.
Justement, ça me fait rebondir sur une question, c'est est-ce qu'on doit le montrer Cthulhu, justement ? Parce qu'on a tous imaginé, on a chacun sa perception, sa vision de Cthulhu, est-ce qu'on doit le montrer et comment ?
C'est ce que tu disais tout à l'heure.
On doit le montrer si on est capable de bien le faire. C'est tout le problème.
Comment le représenter? Est-ce qu'une créature gigantesque ou...
Non, mais moi je crois assez au mécanisme qui est dans les montagnes hallucinées à la limite. C'est-à-dire que par le représenter par allusion, parce qu'il y a quand même plein d'outils là. C'est-à-dire il y a les reliques, les hiéroglyphes, les murs avec des fresques, puis dans les décors en plus, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, qui va de la mine à la grotte en passant par les vestiges de la cité antique ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire des représentations indirectes, puisqu'on sait que c'est pas. Le passage qui est difficile, c'est le moment de la gélatine. C'est quand tout à coup il y a les tentacules qui sortent et qu'il y a l'œil en plein champ, et là on le croit, on adhère ou pas. Mais ça dépend aussi de la préparation. Parce que peut-être que en préparant bien au départ les allusions, la suggestion peut fonctionner beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que la représentation directe. Mais c'est un truc de cinéaste, effectivement, ça.
Par exemple, on peut prendre un exemple. Les montagnes hallucinées, il y a plusieurs utilisations de quelques éléments de la nouvelle pour faire des films, par exemple ceci ou d'autres. Oui. Mais par exemple, si on prend un film comme Alien vs Predator, c'est l'histoire.
Oui,
que
ça.
Raconte Lovecraft, alors c'est pas les mêmes monstres, mais c'est cette histoire-là, un combat entre deux sortes de monstres, bon ben ça se passe en Antarctique, et le film parle de ça, quoi. Pardon.
Tu voulais...
Oh non, je voulais juste dire un truc, c'est quand même très très mauvais, quoi. Je peux pas prendre ce film, hein. Mais je
comprends. Non, mais par rapport au montage halluciné ou l'adaptation, ce qui est intéressant, c'est que tu dis justement, c'est un affrontement. Il y a un truc de base dans le scénario, c'est qu'il y a un antagoniste et un protagoniste. Ça, c'est vraiment le truc. Ouais. Alors ensuite, il peut avoir mille visages. L'antagoniste, ça peut être les éléments déchaînés, c'est pas forcément une personne physique, ça peut être Toulou, ça peut être la tempête de neige, ça peut être ma femme, ou ça peut être mon voisin de palier, mais il y en a toujours un. Donc là, Alien contre Predator, c'est y a Alien, il y a Predator, il se fout sur la gueule, et puis on y va. Voilà. Les montagnes hallucinées, c'est pas ça. Il y a un objectif, on sait pas où il est. Et donc, c'est toujours ce problème de l'allusion et de qui est le méchant dans cette affaire. Et comment on va le montrer. Parce que là, en fait, il s'agit de monter en puissance sur le mystère, d'avancer dans la progression, de concevoir une progression dramatique et esthétique qui fait qu'on va avoir peur avec des moyens qui sont quand même. Ils tombent pas sous le sens, hein.
Mais là, tu expliques ce que tu as envie de faire, toi. Hein.
Non, je dis pas.
Non, mais t'as le droit, il n'y a pas de problème.
Mais pas du tout, mais j'ai envie de rien faire, moi. C'est le problème qu'on rencontre, qu'on va rencontrer si on adaptait les montagnes hallucinées. Parce que, attends, avant que ce soit le cinéaste, il y a un scénario.
Oui.
Il y a un scénario. Et le scénario, ça ne peut pas être une transposition littérale de la nouvelle. Donc, il faut l'articuler en fonction de nœuds dramatiques. Enfin, ça, c'est le travail du scénariste, pour le coup. Et dans ce cas-là, ça pose des problèmes d'adaptation pure. Il n'y a pas d'antagoniste, c'est un problème. Ça veut dire que la mécanique, il faut la trouver ailleurs. Et donc, il faut arriver à concevoir la montée comme ça de la terreur. Il faut arriver à la concevoir sans qu'on ait d'antagoniste désigné ou alors en inventer un. Hein. Mais comment? Sans qu'il y ait le chat noir qui passe et qui fait tomber la casserole. Enfin, reprendre les... Donc, il y a quand même un problème d'écriture au départ, d'adaptation au sens de l'écriture. Quoi.
Ouais, mais après, dans les montagnes hallucinées, l'avantage qu'il y a, c'est quand même que l'antagoniste, c'est la nature. Quoi. Et ça, c'est hyper lovecraftien. La nature, elle est dangereuse, la nature,
elle
est omniprésente. Je vais reprendre sur. Il y a une. Les éditions Sans Détour ont publié justement une campagne de jeux de rôle sur les montagnes hallucinées. Et les 90% de l'histoire, c'est la préparation de l'expédition et les avaries qui peuvent arriver dans une expédition, les tempêtes de neige, le fait que ils ont perdu de la bouffe, donc forcément il y a la survie aussi qui rentre en ligne de compte, mais à cause de la nature. Et avant d'arriver effectivement jusqu'à la cité machin, mais c'est la nature est un vrai antagoniste qui est, il n'y a pas besoin de le montrer puisqu'en fait il y a la tempête de neige qui arrive, les chiens de traîneau ils se barrent, enfin. Et je fais quoi au milieu de mon Antarctique, quoi?
Mais quand on regarde le film Alien, je regrette, quand on regarde le film Alien vs Predator, il y a tout ça.
Ouais, mais moi c'est pas ma vie. Mais
ça
moi, c'est
vient
pas...
de l'espace, les Predator ils arrivent de l'espace avec une soucoupe volante, je sais pas quoi. Ils affrontent aussi les intempéries, puisque ça se passe en Antarctique. Il y a tous les éléments de la nouvelle de Lovecraft, sauf le fait que ce que Lovecraft raconte, c'est ce qui est arrivé dans l'ancien temps qui pourrait revenir, parce que là, ça arrive maintenant, quoi.
Ouais, après, c'est pas trop ma vision de Lovecraft, quoi. Parce que pour moi, Alien et Predator, c'est comme quasiment un Cthulhu et puis un Astur, quoi. Et il y a les humains au milieu, quoi. Et moi, ma vision de Lovecraft, c'est pas des dieux qui se tapent dessus, quoi. Et avec,
pour moi, c'est pourtant ça dans la nouvelle de Lovecraft sur le, sur un peu l'Antarctique.
Oui, il y a
les hallucinés, c'est ça, hein.
Les choses très anciennes et les migos, les choses très anciennes et les larves stellaires, machin. Et puis enfin, les choses très anciennes et les chobots. Donc effectivement, il y a ça. Mais ce qui est intéressant dans les montagnes hallucinées, c'est justement ce que tu disais, ces conflits sont passés. Voilà. Ils ont déjà eu lieu. Et comme souvent chez Lovecraft, le pire a déjà eu lieu. Mmh. Et les types déboulent dans une situation qui les dépasse totalement. C'est ça qui fait vraiment ce sentiment d'horreur cosmique. Et ils découvrent un petit reste de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Et c'est ce petit reste qui va leur foutre les boules. Et faire passer ça, c'est très dur. Ce qui permet de le faire dans la nouvelle, c'est justement que dans le roman d'ailleurs, qu'il en passe la moitié à décrire des choses qui ont eu lieu il y a très longtemps et qu'on ne comprend qu'à moitié.
Ça, c'est de la littérature. Enfin,
oui, mais pour le coup, ça vient poser un énorme problème pour l'adaptation cinématographique.
Non, je ne suis pas sûr. Non. Il ne faut pas se faire arrêter par ça, quoi. Le cinéma, c'est le cinéma. Ce n'est pas le même art que la littérature. Moi, je regrette. Alien vs Predator, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la fin, elle est exactement comme dans la nouvelle. L'alien, il se reproduit, il repart, ils vont revenir. Ben c'est ça,
c'est ça.
Qui dit Lovecraft dit également créature cosmique. Peut-on également faire un film qui se passe sur une autre planète que la nôtre avec les créatures du Panthéon?
Oui, sans aucun doute.
Ça serait délirant, mais ça serait marrant. Hein.
Ah ouais, c'est clair.
Faut autant y aller à ce moment-là. Oui,
ah ouais,
là,
vu tous les films de SF actuellement, les Space Opera, etc., est-ce que ça peut être envisageable, du coup, sachant que. Plus ou moins, Guillermo del Toro avait montré un espace à la fin d'Hellboy avec une créature tentaculaire. Il faut penser à Cthulhu qui sortait. On peut imaginer la même chose sur une planète, par exemple.
Non, mais ça s'est fait. Enfin, chacun a son interprétation, mais moi j'aime bien. Ça s'est fait avec Alien, ça.
Oui.
Donc, on peut pas dire que Alien n'a rien à voir avec Lovecraft. D'ailleurs, il s'est inspiré des créatures de Lovecraft pour concevoir son Alien, qui a d'ailleurs été inspiré d'un film de Mario Bava qui s'appelle La planète des vampires. C'est très Lovecraftien, mais Mario n'avait aucun moyen, mais il était génial sans moyen pour faire des effets spéciaux assez intéressants. Et là, c'est pareil, un vaisseau spatial qui arrive à proximité d'une planète, ils entendent un appel au secours, comme dans Alien. Ils atterrissent et puis ils sont possédés par des vampires psychiques sur la planète, etc. Donc, si vous voulez, ça va très loin. On a des tas de chemins de vent, tout est relié l'un avec l'autre. C'est assez intéressant, quoi, finalement. Mais maintenant, on revient à la discussion du début. C'est ce que tu avais dit au début. Savoir si on veut adapter la nouvelle fidèlement. C'est un peu la question que tu soulevais, c'est pas évident, mais peut-être que quelqu'un réussira, je ne suis pas contraire, ou s'inspirer seulement de Lovecraft, de son ambiance ou de quelques éléments de ses nouvelles. Quoi.
Alors, les personnages présents dans l'univers de Lovecraft sont souvent pessimistes et impuissants. Faut-il absolument respecter ce point ou au contraire peut-on insérer un personnage charismatique pour mieux le faire sombrer dans la folie face aux grands anciens?
Nous faire des films,
mais... Oui, c'est ça. Ben c'est pareil, on peut tout faire. Hein. C'est-à-dire que... je sais pas si c'est une donnée d'entrée ou un prérequis que le personnage principal soit nécessairement un dépressif. D'ailleurs, au départ, ils sont pas tous comme ça. Hein.
La plupart du temps, ils sont plutôt sains d'esprit.
Oui, ils sont plutôt sains d'esprit. C'est justement que... C'est pas forcément que ce sont des noceurs, etc. Mais enfin, ils sont plutôt... Ils sont équilibrés, c'est justement comme ça que voilà.
Enfin, c'est plutôt même des personnes qui sont plutôt lettrées, qui ont de l'éducation, etc. Donc c'est plutôt des personnes qui ont le pied sur terre au départ. Quoi.
Oui, c'est même intéressant
parce que
le ressort de la folie, c'est justement le fait qu'ils soient lettrés. Mmh. Parce que la plupart sont des érudits ou sont des gens qui travaillent les textes, qui donc sont des intellectuels en fait. Et qui tombent dedans parce qu'ils se font piéger par ce que Eco décrit dans le Pendule de Foucault, ou par c'est-à-dire tout à coup une espèce de délire ésotérique, et qu'on ne comprend pas. Et moins on comprend, plus on a envie de comprendre, et on est déjà foutu. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le piège Lovecraftien, c'est un piège intellectuel quand même au départ, c'est un piège érudit. Ou alors de l'érudit qui n'est pas assez, ou qui est érudit mais qui n'est pas suffisamment pour s'arrêter avant que s'il soit trop tard en fait. Et bon, comme en plus ça se nourrit en général de petits problèmes personnels, voire de créatures d'un autre monde, ça peut comprendre, ça choque au bout d'un moment. Donc... Mais c'est, je trouve ça intéressant que c'est finalement le signe, c'est-à-dire l'écriture, quoi, qui fait qu'on bascule. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas question tellement de son humeur de départ, qu'il soit beau ou pas, ou intelligent ou pas, enfin, en tout cas, si, justement. Mais c'est plutôt que c'est l'équilibre mental qui va vaciller. Donc, c'est plutôt au départ quelqu'un qui est équilibré, ou qui, voilà, et qui a, mais qui a la science tranquille.
C'est ça qui fait peur, d'ailleurs.
Oui, c'est que tout à coup ça marche plus. Voilà. On n'est plus en géométrie euclidienne. Tout à coup ça bascule. C'est comme s'il y a une image que j'adore, mais que j'avais pris dans mon bouquin, c'est Escher, les gravures d'Escher, les perspectives, faussées. Vous connaissez Escher, le graveur. Faut regarder les images sur vous tapez Escher sur Google Images. C'est extraordinaire. Bon, ce sont les perspectives avec des escaliers qui ne cessent pas de monter, par exemple, des chenilles dans les escaliers, etc. Voilà, c'est une image de la folie, c'est une représentation de la folie. C'est-à-dire qu'on suit un escalier et puis on pense qu'on continue de monter, mais on est revenu au point de départ. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourtant, c'est là, c'est représenté. Et donc, c'est comme les effets d'optique. Ce sont des choses qui trompent la raison. Et c'est ce qui se passe avec le texte, les fragments qu'on va retrouver de la cité, machin. C'est que tout à coup, alors on comprend pas la langue, si on comprend des choses c'est terrifiant, et puis c'est même l'essence du Necronomicon, c'est ça, c'est le signe qui va faire perdre la pensée, et c'est ça qui est, tout à coup, c'est ce qui échappe à toute raison et qui fait que ça interroge le statut du réel, c'est-à-dire tout à coup on dit mais ce monde qui m'entoure il est faux, on rêve, ou je suis peut-être dans le rêve de Cthulhu, peut-être je suis, mais en fait on m'a menti. Et ça c'est, oui, ça c'est parce que c'est la raison. On avait cette discussion hier à propos de HPL l'homme, c'est-à-dire c'est cette faille de la folie qui va rentrer dans la raison humaine. C'est ça qui est flippant, d'ailleurs, quand vous avez l'expérience peut-être autour de vous, ou ça nous arrive à nous-mêmes parfois, de moment où tout à coup là, ça dérape pour diverses raisons, ou de gens qui ont des problèmes psychiatriques, etc., ou de dépression grave à certains moments, et ben oui, il y a un moment où le réel vacille, et voilà, et ça c'est terrifiant. Le moment où on ne s'appartient plus. C'est ça en fait l'essence de cette terreur-là. Et donc c'est ça qui est... le personnage qui a son équilibre mental et qui tout à coup voit tout basculer, c'est ça qui fait le mouvement en fait.
C'est comme dans l'antre de la folie.
Voilà, c'est exactement
la première scène dans le café, quand le mec arrive avec sa hache... Ah, mais puis ça se passe.
Quelque chose à rajouter sur cette question?
Juste pour finir, oui, il y a bien cette idée très importante chez Lovecraft de la corrélation en fait. Et les éléments sont là. Ce qui va créer l'horreur, c'est qu'on va juste s'intoder les éléments et se rendre compte qu'ils ont un lien. Et ça, c'est central dans l'appel de Cthulhu, c'est le célèbre premier paragraphe qui pose ce truc-là. Donc ça va être effectivement souvent des traits, des érudits, ou près de moi. Qui vont être poussés par une certaine curiosité scientifique qui va les amener à avoir une prise de conscience. Et c'est tous ces éléments qui, en se juxtaposant, constituent véritablement le sel d'une bonne partie de l'horreur lovecraftienne. Mais c'est d'autant plus intéressant de l'envisager comme ça que le rapport à la science est très ambigu, du coup. Lovecraft, il était matérialiste, il était rationaliste, c'était un partisan de la science sans aucun doute. Pourtant, il a construit une bonne moitié, peut-être pas une moitié, mais un bon paquet de ses nouvelles sur cette peur de ce que la science amène à découvrir. Et ça, c'est quelque chose qui est sans doute pas très facile à rendre.
Mais alors oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que d'abord, c'est ce qu'on disait hier aussi, il est inséré dans un monde qui est au début du XXe siècle en tout cas, où il y a l'illusion scientiste, c'est-à-dire qu'on va arriver à dominer la matière, etc., et qui en même temps a quelque chose de prophétique, parce que quand on parle de l'invisible, on ne peut pas s'empêcher de penser à la Shoah aussi, à la Deuxième Guerre mondiale, et à ce qui attend du fameux progrès scientifique, qui est aussi l'extermination de masse, dont on n'est toujours pas sorti, quand même. Et donc, c'est vrai que ce rapport à la science, il est intéressant, parce que c'est une vision intéressante, qu'on retrouve chez les totalitaristes d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une alliance entre le totalitarisme et la science ou l'intellect. C'est pas parce qu'on est plus cultivé ou plus intelligent qu'on se garantit davantage du mal. Et donc, précisément, les personnages de Lovecraft se font avoir parce qu'ils sont intelligents. Et donc, ils continuent de creuser et ils se perdent. Mais sur le fond, ce que ça nous dit, c'est effectivement assez noir. Ça veut dire que c'est pas la culture qui va nous sauver de la barbarie. Et ça, c'est quand même un questionnement aujourd'hui qui est d'actualité aussi. Donc c'est vrai qu'il est ambigu, mais on est en plein dedans quand on parle aussi des biotechnologies, de l'ADN, de la virologie, du clonage, des embryons, de tout ce qu'on veut. On est dans des questionnements quand même comme ça. Donc c'est ce qui fait aussi l'actualité du bonhomme, quoi. Hein, voilà. Tout à fait.
Mm-hmm. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont des questions?
Oui, parce que j'avais écouté deux choses qui ont été mentionnées, qui à mon avis vont assez bien ensemble. La première, c'est du point de vue du cinéma, l'animation. la deuxième, c'est du point de vue de l'œuvre de Lovecraft, quelque chose qui n'a rien à voir avec la représentation d'horreur, mais plutôt avec l'aventure fantastique et onirique, qui est évidemment la quête de Kadath. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à mentionner là-dessus? Parce qu'en général, quand on parle de Lovecraft au cinéma ou de ce qu'on pourrait faire, c'est un truc qu'on oublie un peu, alors que moi, ça me paraît, c'est ce qui vient en premier à l'esprit.
C'est un versant qui est totalement différent, et donc ça ramène à un questionnement qui, de base, n'est effectivement pas du tout celui qu'on a traité ici. Et effectivement, la quête onirique de Kadath l'Inconnu, c'est quelque chose qui... Oui, ça pourrait sans doute donner quelque chose, par exemple, en film d'animation, effectivement. Mais c'est d'une richesse... c'est du foisonnement baroque, ça va dans tous les sens, quoi. Et donc, je souhaiterais bon courage aux types qui veulent calibrer dans un film de 2 heures, à moins qu'ils fassent une trilogie à tout hasard.
Non, c'est une trilogie de base.
Cela dit, il y a des choses aussi dedans qui passeraient peut-être mal en dehors du papier. Enfin, les chats qui sautent sur la lune, les zèbres qu'on chevauche, les boules qui font la course, ça passe bien sur le papier, je sais pas ce que ça donne en image, mais je veux bien faire confiance à un bon réalisateur. Espérons-le, qui pourrait le faire.
Il existe un dessin animé, il doit à peu près une heure.
Ouais.
Il est c'est énormément détaillé, c'est par des détails sur toute l'image.
Alors donc, de ce que tu dis, il y a le monde des rêves. Et donc le monde des rêves est très important dans le monde de Lovecraft, dans Lovecraft, je n'arriverai jamais. Par exemple, il y a un truc assez surprenant, vous connaissez tous la série des Freddy. Le gars il revient du rêve et puis il tue les gens. Donc moi j'ai vu toute la série et puis j'ai vu le dernier, c'est Wes Craven qui l'a fait, et il s'appelle Freddy sort de la nuit. C'était en 1994 qu'il est sorti. Et donc je suis obligé de vous lire un extrait de mon bouquin parce que je n'arriverai pas à le citer de mémoire. Donc Wes Craven, il est dans ce film, je crois que vous ne l'avez peut-être pas vu. Il joue dans ce film, comme il joue son rôle à lui, il y a des actrices qui jouent son rôle à elle, etc. Et donc voilà ce qu'il dit dans le film, Wes Craven. Alors l'actrice, il a une discussion avec l'actrice, Zier, je ne sais pas comment on prononce en anglais, je suis nul, Langenkamp, bon, je prononce en allemand. Alors Wes Craven, j'y vois une entité, elle est vieille, très très vieille, elle a traversé l'histoire sous différentes formes, il y a une chose qui ne change pas dans tout ça, c'est sa raison d'être, l'actrice, c'est-à-dire... Le meurtre de l'innocence, elle peut dans certains cas être capturée par les auteurs de toutes ces histoires. Quand ils tiennent une bonne histoire, ils en capturent l'essence même, et ensuite ils la retiennent prisonnière dans le récit. Les problèmes viennent quand l'histoire s'arrête, sa mort libère le mal. Conclusion, c'est l'actrice qui parle, Freddy serait cette entité, ouais, nouvelle version. C'est superbe, hein? Franchement, ça me donne des frissons. Ce type, il est génial dans cette citation. Qui aurait vu dans Freddy Lovecraft, et là il est clair hein, pourtant, il s'est inspiré de Lovecraft pour faire Freddy.
Une autre question peut-être? Oui.
Une petite ouverture après le cinéma sur le monde de la série télé, je pense que les gens ici ont vu la saison 1 de tous les détectives, ouais. Où on nous balance des petits hameçons. Un name dropping sur Carcosa, on a une petite fille qui est passée dans les marécages, enfin, une créature à la tête verte avec des cheveux bizarres qui bourdouillent. Est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus? Est-ce alors. Que le fait qu'on en parle sans en parler?
Oui, moi, j'ai un commentaire, c'est que je pense que c'est Christophe, là tu devrais voilà. Répondre, parce qu'on a ici, c'est l'éditeur du Roman Jaune, justement. Donc,
oui, en fait, sans vouloir faire battu, l'édition du Roman Jaune de Tienne Noche qui a été faite dans la perspective des gens qui ont aimé la série Tous les Victimes, bien que, à mon avis, on peut vous plaisir qu'on a lu d'abord le livre et regarder la série aussi. Parce que là, il y a plaisir d'entendre la série, c'est-à-dire que c'est des gens comme ça qui travaillent quelque part.
Exactement.
Je ne parlerai pas vraiment de mythe de tout, bon, tout ça, c'est relié effectivement à la. Je sais pas non plus si on peut parler de mythologie, enfin, le développement du Roman Jaune. Alors après, bon, moi, j'ai lu des interviews de Salato dans lesquels il explique que. Personnage avec son masque est censé représenter une tête d'insecte. En fait, il a voulu faire quelque chose qui ressemblait à une tête, qui une tête d'insecte, donc on n'est pas vraiment dans le fluide. Maintenant, après, tous les allusions à Carcosa, en voie en jaune, etc., ce sont des choses. Alors il mentionne absolument pas, il parle absolument pas de Lovecraft,
lui, ce qu'il a voulu faire, ça a été de pimenter son récit criminel, enfin son histoire de meurtre mystérieux, avec des allusions à peut-être une réalité autre, dont il ne dit pas qu'elle intervient réellement dans le récit, mais dont il peut laisser penser, laisser croire à qui a envie de croire, que peut-être elle est quelque part là-dedans. En fait, c'est tout repose sur l'ambiguïté.
Justement, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est assez adroit ça. Parce que le roi en jaune est là et il est pas là et en même temps il est partout du coup. Et parce que en fait là c'est typiquement on le voit pas, mais il y a des phrases qui sont marquées, c'est, on est dans l'allusion, etc.
Isolato dit à propos de tout à fait autre chose, mais je trouve que ça colle parfaitement. Moi j'aime beaucoup l'ambiguïté et ça m'a beaucoup été reproché. Et là c'est
complètement ça. Ben, c'est exactement ça, oui. On devrait pas lui reprocher.
Non mais il y a un moment très intéressant qui dure quelques secondes à la fin. Je vais spoiler un tout petit peu quand même. Mais tout le monde a vu True Detective ou. Non. Bon, je vais parler juste d'une image, mais il y a le flic, pour ceux qui l'ont vu à la fin, au moment où... Bon, et il y a, c'est une intrusion fantastique qu'on n'attend pas du tout. Il y a une espèce de nuage suspendu, noir. Ça dure une seconde ou deux. Et donc là, il n'y a pas de tentacule, il n'y a pas de Cthulhu qui débarque, il n'y a pas de... Voilà. Et en plus, c'est d'autant plus fort que on est censé être dans la projection mentale du personnage qui avance. Et donc, on se dit, c'est peut-être aussi le fait de sa schizophrénie en marche, ou de son, de lui qui est fatigué, ou on ne sait pas, autrement dit, si c'est un moment d'irruption objective du fantastique, ou si c'est le point de vue du personnage qui est au bout du rouleau, à un moment critique. Et donc, dans cette quelques secondes, il y a l'ambiguïté tout à coup, et je trouve, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, je trouve que ça fait un effet de bombe, ce truc. C'est-à-dire que tout à coup, on a basculé dans autre chose. Et on sait pas, et on sait pas si c'est du lard ou du cochon, on sait pas si mais c'est assez, on est parti de là tout à l'heure, mais c'est assez à peu près la même idée que cette fenêtre étroite qui s'ouvre tout à coup dans la nouvelle du roi en jaune. Tout à coup on a une espèce de glimpse là, de clin d'œil sur Carcosa ou sur voilà, mais ça dure qu'une fraction de seconde et c'est parti, mais on l'a vu et c'est trop tard déjà.
Mais d'ailleurs l'ambiguïté c'est l'essence même du fantastique,
la manière en particulier, j'ai beaucoup la manière pour l'ambiguïté introduite dans tous les détails à propos de ces visions de Ruff Paul. On nous a dit qu'il a travaillé pendant des années au marketing.
Oui, c'est ça. C'est
et
ça.
Qu'il a beaucoup absorbé de ce sens diverses et que parfois il a démonté. Et à chaque fois qu'il a une de ces visions bizarres, il est seul. Il n'y a pas quelqu'un à côté de lui à qui il pourrait se confier et qui lui dirait non, t'as rêvé, ça n'est pas arrivé. Donc l'ambiguïté, elle est là parce qu'il n'y a pas moyen de le dire.
Ah, il ne se confie pas surtout. Il ne se confie pas parce que ça lui arrive d'avoir des visions dans le premier épisode, dans la voiture. Et l'autre le remarque, ils disent, et l'autre dit non, ça va, j'ai rien.
C'est toujours un classique du fantastique, de toute façon, il y a toujours un moment où on prend des pilules, etc. Parce que ça permet d'introduire cette ambiguïté. Est-ce que c'est le fait du psychotrope? Est-ce que c'est parce que je suis vraiment complètement taré? Ou est-ce que c'est parce que, effectivement, j'ai vu un tentacule?
Une dernière question, peut-être?
Oui. Il aborder le mythe sous un angle nouveau, celui du symbolisme. Vous avez dit que le mythe a un fort symbolisme, celui des crimes indicibles, celui de l'écrasement de l'humanité dans un cosmos qui dépasse. Est-ce qu'on ne pourrait pas aborder la création d'un scénario et non d'un film par l'angle du symbolisme, de lui donner une signification seulement symbolique, et ensuite de le transmettre à l'écran d'une manière qui n'a de sens que symbolique? Et il faudrait obligatoirement voir le premier, le second sens sans voir le premier.
Je vais laisser, non, parce que je pense que tu... Mais juste deux référents, enfin deux idées. La première, c'est que d'abord ce côté symbolique, on est aussi, ça me fait penser à la construction des cathédrales, aux maçons, etc., aux corporations de maçons, voilà. À l'idée simplement que quand les édifices étaient montés, ils étaient en fonction d'une symbolique particulière, justement, et donc ça engage une forme d'architecture. Et donc on pourrait imaginer un film avec une espèce de clé secrète occulte qui serait, voilà, ça existe à d'autres degrés. C'est même un ressort en scénario ou dans certains projets, ça s'appelle la structure de scénario. Bon, chez Greenaway on trouve des choses comme ça, ou plus barré encore chez Chris Marker par exemple, si vous avez vu La Jetée ou des films comme ça, où tout à coup on a une construction qui échappe complètement à... Alors pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait imaginer, et d'ailleurs ça serait assez fantastique d'imaginer une espèce de délire lovecraftien sur la base d'une espèce de métrique inventée, symbolique, puisque la clé nous serait cachée dans ce cas-là, on ne saurait pas forcément. Mais ce que ça m'évoque finalement, c'est comme si on disait, on parlait de l'hermétisme aussi hier ou de Mallarmé, c'est-à-dire, ou quand on parle de l'onirisme et de l'animation, c'est-à-dire à un moment donné, un parti pris toujours esthétique qui serait celui d'une transcription poétique finalement de Lovecraft, et ça pourquoi pas. Parce que ce soit en animation, en film, etc. Je pense que si, paradoxalement, tous les fans seraient beaucoup plus indulgents s'il y a une vraie, un vrai parti pris esthétique, quitte à ce qu'il se plante, que un tentative de truc un peu tiède qui soit panouille autour de l'offre art, voilà, à la limite. Mais c'est ça, c'est comme si on dit des fleurs du mal ou Mallarmé, comment est-ce qu'on va adapter des sonnets ou des... Voilà, il y a une poésie dans l'offre art finalement, et c'est vrai que c'est ça qui est difficile à traduire, quoi.
Bien, merci à tous pour cette table ronde. On va être obligé d'arrêter là. Allez, go timing.